They don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达姆加
正忙
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Audrey Rameau, merci Clément Salazar, Tiffaine de Roquigny, Xavier Martinet, réalisée ce matin par Charles Le Gargasson et mise en onde par Alexandre Dang. On va poursuivre notre série d'émissions consacrées aux prisons quand les murs tremblent et aujourd'hui prison ouverte, la voie de la réinsertion. Alors que les Républicains ont récemment proposé la construction de 20 000 places de prison supplémentaires pour en finir avec l'inexécution des peines, préconisant également une plus grande fermeté à l'encontre des mineurs, la garde des Sceaux, Christiane Taubira, tient son cap et assume sa politique pénale. Le but, selon elle, n'est pas de supprimer ou remplacer la prison, mais d'enrichir l'arsenal répressif mis à la disposition des juges. Un débat autour de la prison qui reste évidemment extrêmement politique, avec d'un côté une recherche de dispositifs d'aménagement des peines, on pense notamment à l'utilisation du bracelet électronique, et de l'autre une vision de la prison avant tout punitive, qui s'accompagne d'une promesse de restauration et de durcissement des peines planchers. Pourtant, en France, le constat est assez alarmant, avec un taux de récidive qui atteint en moyenne 38%. Notre modèle pénitentiaire traditionnel, celui de la prison fermée, miné par la surpopulation carcérale, semble à bout de souffle et ne permet pas aux détenus de se préparer à un retour à la liberté. Il faut regarder chez nos voisins européens pour découvrir des modèles d'incarcération alternatifs, parmi lesquels ces prisons ouvertes, semi-ouvertes. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde, prison ouverte, la voie de la réinsertion.
Dans notre prison ouverte, on est comme dans un cocon. Nos conditions de vie sont excellentes. C'est évident que seul dans ta cellule ou ici avec des potes, il y a une énorme différence. Il y a beaucoup d'activités que tu peux faire ici. On peut faire du sport, on peut faire des grillades, on peut se baigner. Quoi que tu fasses, tu trouveras toujours des potes.
On ne peut pas rester à dormir comme on peut le faire dans une prison fermée. Ici, on est forcé de sortir le matin. Et à mon avis, ça aide à retrouver la vie normale. Ici, je suis un gars normal. Et quand je suis en prison, je me plie aux règles.
Voilà, extrait d'un documentaire de Bernard Nicolas, diffusé sur Arte l'année dernière, prison ouverte, un pas vers la réinsertion. On entendait là les témoignages de détenus du côté de la Finlande, l'un des plus grands pays d'Europe du Nord où l'on trouve des prisons ouvertes. Justement, dans ces établissements, la sécurité, mais aussi le lien social et le travail sont au cœur des priorités. Sur l'île, par exemple, de Suomenlinna, en Finlande, la prison de Kerava accueille ainsi des détenus qui travaillent ou étudient à l'extérieur et payent un loyer. Autre exemple, Givenich, au Luxembourg, où se trouve un établissement pénitentiaire semi-ouvert, mixte. Le seul d'Europe. Alors pourquoi ce modèle de prison ouverte reste encore l'exception en Europe et dans le monde ? Quels sont les mécanismes à l'œuvre dans ces établissements qui expliquent leur succès et quelles en sont les limites ? Les prisons ouvertes ont-elles réellement pour effet de diminuer les taux de récidive ? Est-ce que c'est un modèle exportable ? Dans quelles conditions ? Voilà un peu les grandes questions autour desquelles eh bien, nous allons nous interroger ce matin avec notre invité Paul-Roger Gontard. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes juriste, docteur en droit pénal et en sciences criminelles. Vous êtes auteur notamment d'un rapport sur le régime ouvert de détention que vous aviez livré pour le ministère de la Justice en 2010. Vous avez eu donc l'occasion de visiter un certain nombre d'établissements du côté de l'Autriche, du côté de la Suède, l'Irlande, le Luxembourg. D'abord, on va commencer peut-être par une petite définition, Paul-Roger Gontard. Toutes les prisons ouvertes sont différentes. Chacune possède des spécificités. Mais il y a quand même, bien sûr, des éléments communs. Quels sont les grands principes qui structurent, puis ensuite on détaillera, mais qui structurent l'organisation des prisons ouvertes? Comment définir ce qu'on appelle une prison ouverte?
Alors, une prison ouverte repose sur trois piliers. Le premier de ces piliers, c'est l'absence de moyens passifs de sécurité, c'est-à-dire ces murs, ces barreaux aux fenêtres, ces miradors qui constituent l'obstacle à l'évasion dans la représentation que l'on a traditionnellement d'une prison, en tout cas dans sa représentation architecturale, et qui, dans une prison ouverte, sont absents. Alors, sont relativement absents, puisque parfois ils peuvent subsister modestement, symboliquement, mais en tous les cas, on ne peut pas considérer qu'ils sont suffisants pour empêcher l'évasion d'un détenu depuis une prison ouverte. Le deuxième pilier, pilier, c'est ce que l'on appelle la discipline consentie, c'est-à-dire un contrat qui lie le détenu et l'établissement dans lequel il pourra avoir plus de liberté individuelle, en contrepartie desquelles il devra supporter plus de responsabilités. Et ce contrat a souvent comme sanction, s'il n'est pas respecté dans ses termes, bien qu'il ne soit pas toujours écrit évidemment, mais un retour dans une prison fermée, c'est-à-dire qu'il y a une épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête des détenus. S'ils ne respectent pas l'obligation qui complète la liberté qu'ils ont recouvrée ou les parcelles de liberté qu'ils ont recouvrées dans ces prisons ouvertes,
ils retournent dans les structures fermées.
Exactement. Troisième pilier, et non des moindres, c'est l'activité. Pour que ces établissements fonctionnent, il faut que les détenus soient en activité. Alors, par le passé, on considérait que cette activité devait être du travail. Aujourd'hui, on trouve en Europe des établissements ouverts qui fonctionnent avec de la formation, avec du soin. Donc, cette activité n'est pas nécessairement une activité économique, mais en tous les cas, elle permet d'éviter cette oisiveté mère de tous les vices, comme on disait au 19e siècle, et elle garantit un parcours vers la réinsertion, qui soit un parcours utile, dans lequel le détenu est inscrit pour favoriser ces facteurs de désistance.
Alors, je ne l'ai pas dit, Paul-Roger Gontard, mais vous aviez fait une thèse, justement, sur l'utilisation des prisons ouvertes dans le champ pénitentiaire européen, et en bon thésard, vous aviez regardé un petit peu ce qui se passait, ce qui s'était passé dans l'histoire. En réalité, ce modèle, il existe depuis longtemps. Je crois que vous avez pu retourner, notamment remonter à un modèle espagnol dans les années 1830.
C'est bien ça. La prison ouverte est quasiment aussi ancienne que la prison pénale, c'est-à-dire la prison comme peine dans l'histoire pénologique mondiale. La prison devient une peine à part entière en Europe au moment de la Révolution française, pour être rapide. Et donc, quelques décennies plus tard, on voit apparaître les premiers exemples de prisons ouvertes en Europe, souvent d'ailleurs, créés par des professionnels qui ont eux-mêmes été incarcérés. Et ils ont été incarcérés à l'occasion des guerres napoléoniennes notamment, et cette expérience qu'ils ont vécue dans leur propre chair d'une carcéralité, ils veulent la mettre à profit le jour où eux-mêmes deviennent des directeurs d'établissements pénitentiaires et où, à leur tour, ils cherchent à trouver la bonne composition entre les objectifs de la peine, que sont la neutralisation, la réinsertion, l'amendement et la réforme du condamné.
Peut-être un peu de géographie, Paul-Roger Gontard. Regardons les pays où on trouve justement des prisons ouvertes. On voit tout de suite, j'ai une carte devant moi, proportion de places en Europe utilisant le modèle ouvert de détention par un champ pénitentiaire national. Il y a une première chose qui frappe, c'est une césure nord-sud. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est que c'est en Europe du Nord qu'on trouve le plus de prisons ouvertes.
Alors, c'est pas tout à fait une césure nord-sud, c'est une césure culture catholique et culture protestante. La Suisse étant pas très au nord de l'Europe, elle fait pourtant partie de ces pays qui utilisent assez largement le modèle ouvert de détention et où la prison ouverte la plus ancienne en activité, Witzwil, qui a plus d'un siècle d'existence, est en Suisse. Alors, pourquoi j'insiste sur cet élément culturel? Parce qu'il est sans doute une des explications du développement de ces établissements dans certains pays et pas dans d'autres, notamment dans le nôtre. Dans les pays de tradition plus catholique, il se trouve que la peine a une dimension afflictive. Il faut, par mimétisme à la passion christique, que le condamné souffre pour pouvoir obtenir son salut. Et dans les cultures plus protestantes, ce rapport-là à la réhabilitation par la souffrance n'existe pas. Ce mimétisme presque monacal, au contraire, a été plutôt dénoncé par les penseurs de la philosophie luthérienne. Et à l'inverse, le condamné, lui, doit trouver une place dans la société, une place utile. Voici sa fonction. Lorsqu'il a commis un acte répréhensible, il doit, pour finalement retrouver le pardon du groupe, trouver des éléments qui montrent qu'il est utile à ce groupe.
Mais vous pensez que cette dimension culturelle, religieuse, confessionnelle joue encore?
Oui, malgré la sécularisation de notre pays, je pense que c'est une pesanteur morale qui encore traverse les réflexes, les représentations que l'on peut avoir au sujet de la peine. Ce qui explique, alors c'est là tout le paradoxe, que certaines prisons ouvertes aient d'abord été créées dans des pays de tradition catholique, l'Espagne en est un bon exemple, mais que leur développement, en tout cas, a eu plus de facilité dans des pays qui sont de tradition plutôt calviniste ou luthérienne.
Bon, alors, je vais prendre un contre-exemple. La Pologne, pays très catholique. Pourtant, il y a pas mal de prisons ouvertes.
Oui, mais de très petites dimensions et avec énormément de restrictions dans leur usage. C'est là où... et j'attends de voir dans les années qui viennent d'ailleurs comment est-ce que ces établissements ouverts vont évoluer en Pologne, notamment avec les gouvernants en place aujourd'hui. Ce contre-exemple se limite du coup à des toutes petites unités de quelques détenus. Pour trouver des établissements de taille significative, de plusieurs centaines de détenus, il faut aller au Danemark, il faut aller en Suède, il faut aller aux Pays-Bas. Et dans ces lieux-là, on voit que la prison n'a pas forcément de mur.
Alors, quand même, effectivement, hein, quand on regarde un peu les chiffres, 16% de prisons ouvertes en Suisse, 8% en Angleterre, au Pays de Galles, et en France, 0,37%, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule prison ouverte qui se situe en Corse.
Alors, je vous corrige, pas une seule, nous en avons en réalité deux.
Ah.
Mais la deuxième est très très loin. Elle est en Martinique et c'est la prison de Taïoae. Aux îles Marquises, et cette prison a 5 places. Donc, ce qui ne pousse pas très très loin les statistiques.
D'accord. Finalement, pourquoi est-ce que la France n'a pas été capable d'introduire ce modèle de prison ouverte? Quand on voit, là, on revient sur la série de lois qui a modifié la place de l'emprisonnement dans le paysage des peines. 1885, on a la liberté conditionnelle qui apparaît. 1891, c'est le sursis simple. 1945, la semi-liberté. 1958, le sursis avec mise à l'épreuve. Et puis, la loi de juillet 75, on introduit les substituts aux peines d'emprisonnement. Hein, c'est la formule. Et puis, les peines de travail d'intérêt général. C'est en 83, et puis le placement sous surveillance électronique en décembre 97. D'abord, est-ce que vous voyez, vous, des ruptures, justement, dans cette évolution? Et la question que je vous posais juste avant, c'est pourquoi est-ce que la France n'a pas été capable, dans cette évolution législative, d'introduire la prison ouverte, semi-ouverte?
Alors, elle a été introduite. Elle était même présente dans le Code de procédure pénale comme un modèle pénitentiaire autonome. La vraie question, c'est pourquoi elle ne s'est pas développée. Et vous prenez la loi de 1885 qui institue la libération conditionnelle. Cette libération conditionnelle a été inventée, ou en tout cas institutionnalisée, par un Irlandais qui s'appelait Crofton, qui était directeur d'administration pénitentiaire irlandaise au milieu du 19e siècle, et qui avait installé, institué un fonctionnement pénitentiaire par phase. Et ce dispositif prévoyait, avant la libération conditionnelle, qu'on teste le détenu dans une prison ouverte, pour voir si, ayant recouvré un certain nombre de libertés, il pouvait supporter de nouvelles responsabilités. Et lorsque la France adopte la libération conditionnelle en 85, elle oublie que pour qu'il soit inscrit dans un système global, il faut qu'il y ait une étape préalable et préparatoire, la prison ouverte. Pourquoi elle l'oublie? Parce que, simplement, à cette époque-là, on retrouve, de mon point de vue, des automatismes qui sont nés après la Révolution, même pendant la Révolution, lorsque la réinsertion en tant qu'objectif majeur de la peine, alors que, souvenons-nous-en, lorsque la prison a été créée comme une peine à part entière par le Pelletier fin Saint-Fargeau, c'était pour la réinsertion des condamnés. Il l'a créé pour ça. Mais dans le même temps, les conventionnels, puis ensuite l'Empire, ont considéré que cette idée était naïve et que la prison devait être une prison sanction et non pas une prison réinsertive. Ce qui implique qu'en 85, la réinsertion a commencé à glisser vers le dehors, vers l'autre chose que la prison, ce qu'aujourd'hui on appelle le milieu ouvert. Et donc la réinsertion est devenue l'apanage des aménagements de peine, là où la sanction est restée celle de la prison.
Alors en revanche, il y a un dispositif qui s'est beaucoup développé en France, c'est le placement sous surveillance électronique. J'ai pas les chiffres exacts, mais je crois qu'il doit y avoir aujourd'hui à peu près une dizaine de milliers de personnes qui sont concernées. Est-ce que c'est pas ça aussi qui finalement a limité justement le développement des prisons semi-ouvertes en France?
Alors en l'occurrence, le placement sous surveillance électronique, c'est une innovation, c'est une création des années 2000. Avant, il n'y en avait pas. Or, les prisons ouvertes que nous avons, qui ont été créées après-guerre, puisque c'est essentiellement la réforme Amort de 44 et l'initiative de ce directeur d'administration pénitentiaire qui a créé plusieurs prisons ouvertes en France, ces prisons ouvertes ont disparu pour la plupart avant même que le placement sous surveillance électronique ne soit inventé. Non, je pense que c'est simplement, là encore, des représentations de ce qu'est la prison qui ont posé problème, surtout dans le monde politique, dans l'opinion publique et dans l'administration pénitentiaire, qui font qu'aujourd'hui, quand on parle prison, on parle architecture avec des murs, des barreaux et des miradors.
Je suis arrivé là, j'étais tout à fait étonné, parce que dès le premier jour, je pouvais me promener comme je voulais dans leur petit quartier, là, bon, même si c'est en milieu fermé, mais c'est ouvert à l'intérieur. J'arrive ici, on me donne une clé de chambre, fermeture des portes à 9h30, l'autre côté. Pour moi, c'était très, très bizarre, parce que j'étais complètement perdu en arrivant là.
Moi, par exemple, avant de m'envoyer ici, j'étais dans une prison à Ben. Mm-hmm. Et il n'y a pas de fenêtre pour ouvrir. On n'ouvre pas là-bas. Ils me mettent des menottes aux pieds et aux mains. J'ai dit, mais ça, c'est trop. Moi, j'ai commencé à péter les plombs. J'ai essayé de m'ouvrir les veines parce que là, j'étais vraiment... Je voulais en finir. Ici, là, c'est 10 fois mieux que Ben. Vous respirez de l'air pur, vous êtes en contact avec la nature, il y a un côté humain quand même, des gens qui vous parlent gentiment. Tout ça, ça c'est mieux.
Voilà, un nouvel extrait donc de Prison ouverte, un pas vers la réinsertion de Bernard Nicolas. On est là justement du côté de la Suisse, vous en parliez à l'instant. Paul-Roger Gontard, comment est-ce qu'on choisit les détenus? Sur quels critères finalement on va décider que tel ou tel détenu peut aller dans ce type de dispositif?
Alors il y a quasiment autant de critères que d'utilisation de ces prisons à travers le monde. Cela va dans le cas du Danemark, où la loi pose comme principe la prison ouverte, et le juge doit se poser cette question, est-ce qu'un condamné pourra ne pas supporter les obligations qui accompagnent ce régime ouvert de détention, et donc l'enverra dans un établissement fermé. Ce qui n'empêche pas que les prisons ouvertes restent minoritaires dans ce pays. Mais voici de par la loi comment, dans un pays qui est un pays européen, la prison ouverte est le principe et la prison fermée est censément l'exception. Et puis vous avez des pays qui vont se préoccuper de l'acte qui a été commis. C'est-à-dire que tantôt on va favoriser certains détenus, comme au Luxembourg, on va orienter principalement les condamnés pour des délits routiers vers la prison ouverte de Givenchy. Vous allez avoir à l'inverse d'autres pays qui vont exclure certains auteurs d'infractions, comme par exemple en Autriche, les incendiaires ou les auteurs d'infractions aux mœurs, où on va se dire...
Les récidivistes?
Alors les récidivistes, c'est pareil, vous avez des pays qui vont les éviter et d'autres qui ne se poseront pas la question. Vous avez la question des longues peines ou des courtes peines. Certains pays favoriseront les courtes peines, considérant que c'est un bon évitement à la prisonnérisation des prisons fermées. D'autres qui considéreront au contraire que les prisons ouvertes doivent être un sas entre une peine plus longue et la libération.
Donc il y a certains pays où on peut être condamné à une peine de perpétuité et être quand même admissible dans ce type d'établissement.
La France. Il y a eu des peines de perpétuité qui ont été exécutées en partie à Casabianca en Corse. Donc c'est vraiment un modèle qui est malléable à toutes les philosophies pénologiques et qui n'est vraiment utilisé qu'en complément d'autres outils d'exécution de peine.
Est-ce qu'il y a plus d'évasion dans les prisons ouvertes?
Bien sûr. Puisqu'il y a moins de moyens passifs de sécurité, il y a plus d'évasion. Néanmoins, il n'y a pas tout le temps des évasions. Au contraire, on constate que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, a priori, ce sont des établissements plutôt sécures. Et même souvent, on ne parle pas d'évasion, mais de fugue, parce que ceux qui se sont échappés quelques jours, si ce n'est quelques heures, et reviennent à l'établissement d'eux-mêmes. Ce qui est assez paradoxal. Donc oui.
Qu'est-ce qui se passe quand on s'évade?
Alors,
on est renvoyé justement dans une prison totalement fermée.
Comme corollaire, évidemment, comme sanction, de repartir en établissement fermé. Maintenant, on peut avoir des situations un peu cocasses, comme en Suède, où à Kolmården, tous les détenus sont équipés d'un bracelet électronique. Alors, Kolmården est une des prisons ouvertes les plus récentes. Elle a été ouverte en 2004. Et suite à de très nombreuses évasions entre 2004 et 2005, en tout cas trop nombreuses pour le directeur d'administration pénitentiaire, on a décidé que tous les détenus seraient équipés d'un bracelet électronique. Mais comme on est en Suède, on a expliqué aux détenus que ce bracelet coûterait très cher, donc il fallait y faire très attention. Et les très rares évadés depuis se sont arrêtés à une cabine téléphonique, ont appelé la prison et ont dit « Écoutez, on s'est évadé, mais on vous laisse le bracelet ici parce que si jamais on se fait rattraper, on ne veut pas avoir à le payer. » C'est la Suède.
Oui, c'est cocasse. Il y a une chose qui est très importante que vous dites. Pour expliquer la réussite de ce modèle, il faut aussi que ce soit une exception. C'est aussi parce que les détenus savent que précisément ils bénéficient d'un régime d'exception que ça marche. Il ne s'agit pas de mettre tout le monde dans des prisons semi-ouvertes.
Non. Je pense que ça serait une erreur que de croire que la prison ouverte est la panacée pour résoudre tous les maux de la carcéralité. Ça n'a de mon point de vue de sens finalement que, comme cela a été installé dans son usage depuis le 19e siècle, comme un accompagnement aux autres modèles pénitentiaires, comme un complément aux autres modes d'exécution de peine, ce n'est pas la prison, c'est un type de prison. Par contre, ça reste une prison. Il faut bien imaginer que c'est un lieu privatif de liberté où s'exercent des obligations, des contraintes sur des condamnés et qui vont devoir subir là une peine. Et c'est bien ce qui est important sur ce sujet. Une prison ouverte, ça reste une prison.
Alors, vous imaginez la question qui va derrière. Si c'est une exception, c'est une exception, mais jusqu'où? C'est-à-dire que, effectivement, je disais, pour la France, 0,37%. Pour d'autres pays, ça peut monter à quasiment 50%, je crois.
Oui, la Finlande a comme objectif d'atteindre 40%.
C'est quoi la bonne proportion? 20%? 30%? 40%? 50%?
Je pense qu'il n'y a pas de bonne proportion en soi. tout dépend des autres outils qui sont disponibles. Par exemple, nous avons développé le bracelet électronique en grande quantité, de nombreux aménagements de peine, et forcément, il y a une forme de concurrence pénologique entre ces modes d'exécution de peine et un établissement comme une prison ouverte. Imaginez la prison ouverte plutôt comme une étape, comme un moyen de passer d'une prison fermée à autre chose, implique forcément du coup que ce soit une minorité, mais à l'usage, puisqu'on a plus de détenus qu'ailleurs, il faudra plus de prisons ouvertes qu'ailleurs dans notre pays, si tant est qu'on décide. En tout cas, en France, je crois que le seuil de 10% serait déjà raisonnable à un horizon de moyen terme pour dire cet outil-là, il est utile parce qu'il est plus efficace, moins de récidive, parce qu'il est moins cher pour la société, c'est un fait avéré. Oui,
ça c'est une chose qu'on n'a pas dit, Paul-Roger Gontard, effectivement, c'est que c'est économiquement plus intéressant.
Bien sûr, puisque les détenus qui sont à l'intérieur le plus souvent ont une activité économique, qui dégage un revenu, qui est ensuite réintégré dans le budget global de l'administration pénitentiaire, pour la France ou ailleurs de l'établissement, pour reprendre l'exemple de Vittesville, la moitié des finances de cet établissement sont couverts par les revenus, les recettes de l'exploitation agricole, de cette grande exploitation agricole de plusieurs centaines d'hectares. Donc, il faut penser que cet établissement coûte donc moins cher dans son fonctionnement aussi, puisque à sa construction déjà, il n'y a pas la nécessité de construire deux enceintes de béton, d'avoir des miradors tout autour ou d'avoir un glacis pour éviter les évasions. Pour prendre l'exemple d'un mirador, c'est l'équivalent de 7 équivalents temps plein de personnel. Vous enlevez un mirador, vous avez 7 personnels disponibles pour les réintégrer dans la détention et pour leur donner comme objectif d'accompagner le détenu vers sa réinsertion. Et c'est bien ça le choix qu'ont fait certains pays, d'avoir un encadrement humain, des moyens donc actifs de sécurité en bien plus grand nombre, plutôt que d'avoir des moyens passifs de sécurité pour simplement éviter l'évasion.
Ce qu'on dit, c'est que c'est en gros deux fois moins cher.
Alors, ça dépend des établissements et des pays,
en
mais
gros,
oui, ça peut coûter jusqu'à deux fois moins cher. Oui.
Et une chose qui est intéressante aussi, c'est que vous parliez de travail, on va continuer à en parler, mais dans certaines prisons ouvertes, justement, donc les détenus peuvent travailler, reçoivent un salaire, et on les incite à dédommager justement leurs victimes.
C'est souvent le corollaire de l'orientation dans ces établissements. Dans ce contrat moral dont je vous parlais tout à l'heure, la victime n'est absolument pas exclue. Au contraire, on considère que le cheminement vers la réhabilitation, vers la réinsertion, passe aussi par une responsabilisation du condamné vis-à-vis de sa victime, et donc que son travail, les fruits de son travail, participent très tôt à rembourser cette partie civile.
Chaque fois qu'une maison est terminée, c'est quelque chose de formidable. Évidemment, on part de rien, avec de la main-d'œuvre de prisonniers.
La plupart des hommes que j'ai eus ici sont très motivés. Ils pourront revenir plus tard, montrer ça à leur fils et dire « C'est moi qui ai fait ça ». Pour moi, ce sont des camarades de travail. C'est avec eux que je travaille, que je passe 8 heures tous les jours.
Ici, on peut faire un travail intéressant, participer à l'entretien d'un des plus beaux monuments de Finlande, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cela donne un sens à ce que réalisent les prisonniers. Comme pour nous tous, on a envie de faire un travail utile. Mais la confiance qu'on accorde aux détenus est primordiale, ce qui les aide certainement. Car bientôt, ils vont se retrouver dans la société où ils devront vivre avec les autres. Ici, ce n'est pas tellement différent.
Voilà, nouvel extrait donc de Prison ouverte, un pas vers la réinsertion de Bernard Nicolas qui avait été diffusé sur Arte. D'ailleurs, on mettra le lien sur la page de Culture Monde pour que les auditeurs puissent le voir en intégralité. Évidemment, Paul-Roger Gontard, la réinsertion, elle est bien meilleure lorsqu'un individu est passé dans une prison ouverte.
Quand vous traitez un individu en humain pour qu'il retrouve sa place parmi les autres hommes, à ce moment-là, forcément, cette place, il la retrouvera plus rapidement. Je prends souvent cet exemple, un détenu dans un établissement fermé a son quotidien qui est rythmé exclusivement ou quasi exclusivement par les coups à la porte qui indique tour à tour parloir, visite, infirmerie, promenade. Et donc ce quotidien, il échappe dans sa temporalité à l'individu. Lorsque vous êtes dans une prison ouverte, votre temps, il vous appartient et vous avez l'obligation de respecter les horaires qui sont des horaires de travail, par exemple. Et ce choc-là, il est réel. On le voit souvent quand on interroge des détenus qui sont passés d'une prison fermée à une prison ouverte. Ça semble assez étrange, mais après avoir passé des années et des années dans un établissement fermé, on va s'attendre à ce que l'environnement fasse à votre place beaucoup de choses. Alors que dans la société des hommes libres, il faut se prendre en charge, il faut être responsable de son quotidien, de ses horaires, de son rapport à l'autre. Et dans une prison ouverte, ces éléments se mettent en place beaucoup plus facilement que dans une prison fermée.
Parlons chiffres un peu, Paul-Roger Gontard. La question de la récidive, est-ce qu'on voit, est-ce qu'on mesure, est-ce qu'on observe une baisse de la récidive pour les détenus qui sortent justement de prison semi-ouverte ou prison ouverte?
Oui, alors il faut regarder les pays qui ont fait ce travail-là d'études, d'évaluation de cette récidive. L'Angleterre estime qu'un détenu qui est passé par une prison ouverte a deux fois moins de risque de récidive qu'un détenu qui n'a fait un parcours qu'en établissement fermé. Les Finlandais estiment à 20% la récidive de leurs anciens condamnés étant passé par une prison ouverte, là où la moyenne nationale est beaucoup plus élevée. Disons de toute façon que cette question de la récidive est cruciale, parce que c'est bien de ça dont il s'agit lorsque l'on parle aussi d'exécution de peine. Est-ce qu'il y aura de nouvelles victimes ou pas après l'exécution de cette peine? Et après une prison ouverte, il n'en aura pas. Alors, je veux tout de suite tempérer les choses. On a parlé tout à l'heure de sélection. Si vous sélectionnez des détenus, selon leur profil et leur dangerosité aussi, vous allez forcément avoir un public de détenus qui aura moins de risques de récidive que le public général. Donc cette proportion, cette probabilité de récidive, elle doit donc être tempérée par cette sélection. Néanmoins, imaginons que ces détenus n'auraient pas récidivé s'ils étaient passés par une prison fermée. Est-ce que pour autant, il était utile de leur appliquer un coût pour la collectivité de détention deux fois supérieur? Manifestement non, puisqu'ils s'en sont très bien sortis à partir d'une prison ouverte. Donc c'est déjà en soi un outil utile pour la collectivité, même pour des détenus qui n'auraient pas récidivé, tout simplement parce que cela coûte moins cher. Et surtout, moi je fais une nette distinction entre la question de la récidive et la question de la réinsertion. Est-ce que un SDF, ancien détenu, est une personne réinsérée, même s'il ne commet pas de nouveaux crimes, de nouveaux délits? Je ne crois pas. Interroger aujourd'hui dans nos rues les gens qui sont sur le trottoir, une part significative, je ne dis pas la majorité, mais une part significative d'entre eux ont eu comme accident de parcours, ont eu dans leur vie une période de détention. Et cette période n'a pas été propice à une réinsertion. Donc il faut aujourd'hui aussi avoir à l'esprit que la seule question de la récidive n'est pas suffisante pour évaluer la réinsertion. Il faut aussi se poser la question, est-ce que c'est une place satisfaisante que trouve un ancien détenu dans la société?
Alors il y a plusieurs questions qui me viennent en vous entendant, Paul-Roger Gontard. La première, c'est que finalement, le raisonnement que vous nous tenez sur la réinsertion, sur la récidive, il paraît totalement implacable. Du coup, on se dit, est-ce qu'il y a... au niveau de l'Union européenne, peut-être le désir, effectivement, au regard des chiffres qu'on arrive à mesurer sur la récidive, est-ce qu'il y a une volonté d'imposer, en tout cas d'inciter, à l'échelle de l'Union européenne, ce type de modèle? Puisque ça marche dans les pays d'Europe du Nord, pourquoi ne pas essayer de l'appliquer dans le reste de l'Union?
Alors, il y a eu par le passé une incitation forte, non pas au niveau européen, mais même au niveau mondial, de l'ONU, en 1949, par la première décision de l'ONU portant sur la question des crimes, de créer des prisons ouvertes de par le monde. C'est une délibération qui est très éclairante, parce que c'est d'ailleurs une délibération qui définit ce qu'est une prison ouverte. Malgré cette délibération forte de sens et forte d'outils pour créer ces établissements à travers le monde, manifestement, ça n'a pas eu d'impact selon les pays. Et pour répondre très clairement à votre question, aujourd'hui, parce que c'est une prérogative nationale, il n'y a pas d'incitation européenne sur ce sujet. Néanmoins, je crois que les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, qui condamne très régulièrement la France sur ces conditions de détention, en particulier sur la question de
la surpopulation.
La surpopulation et de l'indignité de nos conditions de détention.
Pour rappeler qu'on est à 157% d'occupation.
Non, pas autant, on est à 130%.
130%.
Mais il faut là aussi lisser ce chiffre. Il y a des établissements qui sont à plus de 200%. Il y a des centres de détention qui sont dans un équilibre de population, mais il y en a d'autres où il y a deux fois et demi la population qui était prévue. Et finalement, c'est pas ce chiffre de la statistique qu'il faut observer, c'est celui du nombre de matelas qui sont aujourd'hui, tous les jours, mis tous les soirs pour qu'un détenu dorme par terre et enlevé le matin pour que ces 3 ou 4 autres co-détenus puissent évoluer dans leurs 13 mètres carrés. Voici aujourd'hui ce qu'est la réalité des prisons françaises et voici sans doute ce qui poussera la Cour européenne des droits de l'homme à inciter la France à trouver d'autres modalités d'exécution de peine.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde, toute cette semaine autour des prisons et aujourd'hui les prisons ouvertes, la voie de la réinsertion. On va prendre la direction à présent de la Chine. Le système carcéral chinois, il est très dur, on le sait, sur population, isolement, violence entre détenus, mais aussi de la part des gardiens, voire des tortures. On se souvient notamment des témoignages de Liao Yiwu en la matière, cet intellectuel, écrivain chinois qui avait été emprisonné de 90 à 94 après les événements de la place Tiananmen. D'ailleurs, il était au micro de Laure Adler dans Hors Champ l'année dernière. Écoutez.
En fait, quand on est en prison, on se trouve enfermé avec des bêtes féroces et on ne peut que devenir une autre bête féroce. Il y a les prisonniers qui sont des loups les uns pour les autres. Il y a évidemment les policiers qui sont là pour en rajouter une couche, qui nous torturent, qui nous surveillent. C'était à un tel point que j'ai quand même tenté de mettre fin à mes jours à deux reprises. Alors, il faut bien voir que ce livre a été écrit après ma sortie de prison. Et que pour moi, c'était indispensable d'écrire ce livre. Parce que si j'avais vécu tout cela en quelque sorte pour rien, qu'il y avait même pas de témoignage qui en sortait, je serais devenu fou.
Voilà, Liao Yiwu et ce livre, justement, c'est Dans l'Empire des Ténèbres, dans lequel il rapportait ce récit absolument terrifiant du quotidien des prisons chinoises en matière de torture. Bonjour Nicolas Béclin.
Bonjour, Florian Delorme.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur dans la division Asie d'Amnesty International. Vous êtes basé à Hong Kong. Cette expérience, évidemment, que je mentionnais à l'instant, Liao Yiwu, elle date maintenant. Elle remonte à une vingtaine d'années. Est-ce que les conditions carcérales en Chine ont changé depuis Nicolas Béclin?
Oui et non. Je dirais que les infrastructures pénitentiaires en Chine se sont beaucoup modernisées, en tout cas dans les zones plus développées de la Chine. Donc vous avez des prisons qui ont l'air tout à fait modernes, même par rapport à certaines prisons françaises. Par contre, l'administration pénitentiaire et les conditions de détention, la violence, la torture, le système de discipline au sein de la prison, qui est très souvent un système de discipline collectif où les gardiens font porter la responsabilité de la discipline des cellules à des prisonniers et donc à une hiérarchie assez stricte et dure à l'intérieur de la prison. Tout cela, malheureusement, ne semble pas avoir énormément changé. Mmh. La prison, c'est un monde clos en Chine. Il n'y a pas d'observatoire des prisons, il n'y a pas d'ONG, il n'y a pas d'aumônier, il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas d'homme politique, il n'y a pas de ministre de la justice qui vient avec des caméras visiter. Et donc, comme tout lieu de privation de liberté qui est hors du regard, hors de tout contrôle, les abus sont extrêmement graves et extrêmement répandus. Mmh.
Nicolas Béclin, ce qui est intéressant dans le cas de la prison chinoise, c'est que il y a véritablement une vision d'un espace de rééducation. Alors, je mets des guillemets, évidemment, hein, parce que ça se fait bien souvent avec des méthodes, et vous le rappeliez, extrêmement violentes, voire carrément inhumaines. Mais l'idée de la rééducation, elle existe. Il ne s'agit pas que de punir. Alors, une fois encore, je mets des guillemets à rééducation, mais c'est présent quand même, Nicolas Béclin.
Oui, alors il faut y mettre des guillemets, parce que nous on appelle ça rééducation, les Chinois appellent ça simplement Tiaoyu, éducation. Donc le système pénitentiaire, le système pénal chinois est un hybride. C'est un mélange entre les traditions, disons les sources de la pensée chinoise sur la justice, la place du droit dans la société, qui est très différente de la conception occidentale. C'est une part assez petite et assez limitée, finalement. Ce sont les normes sociales, ce sont les rites, les obligations familiales qui doivent réguler la société, et pas le droit, ni le droit pénal, qui ne vient que pour sanctionner des abus et des comportements qui sont sortis très loin de ce qu'on attend de toute personne dans la société. société. Donc ça, c'est un niveau. Il y a un autre niveau qui est simplement l'origine de la conception marxiste soviétique du système pénitentiaire. Hein. Donc en Chine, on a des cours du peuple, des procureurs du peuple, de la police, de la sécurité publique. Et donc ça, c'est un système aussi qui a ses particularités assez fortes, en particulier qui insiste sur le travail comme méthode de réhabilitation des prisonniers. Hein, puisque les gens qui commettent des crimes, ils ne commettent des crimes, leur responsabilité individuelle est finalement plus légère parce qu'ils sont victimes d'un système de classe sociale qui les relègue à une vie de crime. Et donc, on va rééduquer ces gens par le travail et ils vont devenir de bons prolétaires. Et puis il y a un troisième niveau dans le système judiciaire chinois qui sont tous les imports qui ont été faits depuis les 30 dernières années des systèmes français, allemands, américains, anglais, etc. pour soutenir la croissance économique de la Chine. Donc aujourd'hui, on a toujours une très forte un très fort orientation vers la rééducation, hein, puisque la base du système, le principe fondateur du système pénal chinois, c'est clémence pour ceux qui ont fait, sévérité pour ceux qui résistent. Donc il y a toujours cet aspect de réhabilitation. Simplement, dans les faits, ça ne marche absolument pas. Le système des prisons est complètement corrompu. C'est un système de points. Hein, finalement, il faut gagner des points quand on est un détenu en travaillant, en respectant la discipline, en allant au cours d'éducation et d'indoctrination politique. Parce que ça, c'est aussi une... ça n'est en général pas appliqué aux détenus de droit commun, mais certainement la Chine croit dans la possibilité du remodelage psychologique.
Encore un élément, Nicolas Béclin,
et puis lavage de cerveau.
Encore un élément, et puis je ferai réagir notre invité ici en plateau, Paul-Roger Gontard. Mais est-ce que pour les autorités, il y a une préoccupation de trouver des alternatives à la prison ? Et est-ce qu'il y a des options qui ont été retenues ?
Alors, voilà. Donc ça c'est très intéressant parce que donc historiquement c'était plutôt bon le travail le bon camp de travail où on creuse des tranchées et on travaille dans des usines était la façon de rééduquer et c'était très différent de la prison occidentale qui elle ne vise qu'à punir et à mettre hors circulation les individus dangereux. Simplement maintenant en Chine, la Chine a connu une énorme urbanisation dans les 30 dernières années avec l'urbanisation et une montée de la criminalité. Il y a un système de régimentation de la population qui fait que les résidents urbains ont besoin d'un permis, etc. Ce qui fait que plus de 80% des crimes sont commis par des gens qui sont considérés comme des migrants internes. Donc c'est tout de suite une population qui est extrêmement particulière et en plus en plus de femmes et de jeunes sont partie de cette population. Donc la Chine cherche maintenant des moyens en s'inspirant des expériences internationales pour éviter de mettre des gens de 18, 19, 20 ans en prison dans un système pénal qui sera l'école du crime et qui ne va aider ni la société ni cette population. Donc il y a des tentatives de complètement revisiter ça et d'essayer d'avoir soit des prisons ouvertes, soit des alternatives à la détention. Simplement, c'est très difficile dans un système qui met tellement d'emphase sur le contrôle social.
Paul-Roger Gontard, réaction.
Moi, je note plusieurs points d'intérêt après cette intervention. Je connais très mal le système chinois, mais néanmoins, il y a cette question de la violence, qui est une violence psychologique ou une violence quotidienne qui s'exerce sur les détenus chinois. Et cette violence, c'est très exactement l'antinomie à une prison ouverte, en tout cas telle qu'elle est pensée aujourd'hui en Europe. Pourtant, cette violence, c'est la réaction presque intime, presque évidente que l'on va avoir en tant qu'individu face au crime. Et c'est parfois même la réaction collective que l'on entend aujourd'hui. On se dit, il n'est pas acceptable que des détenus aient accès à la télévision, il n'est pas acceptable que des détenus aient accès à une salle de sport, parce que ce qu'ils ont commis ne mérite pas des traitements qui soient adaptés à ces gens-là. Et... cette violence, il faut aujourd'hui prendre un peu de recul et observer que elle ne marche pas. Quand aux États-Unis, il y a eu un accroissement significatif du nombre de condamnés et de la population carcérale, que ce soit à New York entre 99 et 2009, que ce soit dans l'Indiana entre 2000 et 2010, il y a eu 29% de détenus en plus dans l'Indiana. dans une décennie et il y a eu une diminution de 0,08% de la criminalité. Et à New York, c'est pire. Il y a eu dans cette décennie plus 20% de détenus et il y a eu une augmentation de 29% de la criminalité. La sévérité de la peine n'implique pas une diminution de la criminalité. Par contre, la certitude de la peine est beaucoup plus, est deux fois plus dissuasive que cette sévérité. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'il faut aujourd'hui voir cette question de la répression et de la sanction, non pas être dans une violence, dans un lavage de cerveau, comme j'ai pu l'entendre finalement pour la Chine, dans une idéologie, mais dans un traitement individualisé.
Alors, on est loin du côté de la Chine, évidemment, de cette rupture idéologique. D'ailleurs, on a le soin de donner à personne, parce que chez nous, c'est la même chose, aux États-Unis, c'est la même chose. Mais par contre, il y a peut-être un point sur lequel on peut noter une amélioration, Nicolas Béclin. On parlait de surpopulation tout à l'heure. La Chine est évidemment concernée par cette question de la surpopulation, mais dans ce cas, on peut aussi voir le verre, j'allais dire, à moitié plein, parce que c'est aussi le signe que les procédures pénales se sont améliorées. C'est aussi le signe que les procès sont peut-être un peu moins expéditifs et qu'il y a donc plus de gens en attente de leur procès, Nicolas Béclin.
Oui, bah c'est des problèmes compliqués. Je pense qu'on regarde souvent le système pénal chinois à travers à travers le cas des prisonniers politiques ou religieux. Alors effectivement, si vous êtes Liao Yiwu, si vous êtes un moine tibétain, si vous êtes un Ouïghour accusé de séparatisme.
Voilà. Alors je pense qu'on a perdu. Si vous êtes encore là, Nicolas Béclin. La ligne semble perdue. Peut-être que, voilà, je ne sais pas. On le retrouvera peut-être. Encore une réaction, Paul-Roger Gontard, sur ce que on entendait à l'instant.
Non, simplement que l'individu est le facteur majeur de l'évolution de la pénologie européenne. Alors, je ne connais pas le cas chinois, mais il faut être très attentif à ça. C'est ce prisme-là qui nous permettra de progresser.
Bon, en tout cas, un grand merci à Nicolas Béclin qui était avec nous en direct depuis Hong Kong. Je rappelle, chercheur dans la division Asie de Amnesty International. Après la Chine, on va prendre la direction de l'Italie. Je vous propose d'écouter un petit extrait d'un film italien réalisé par Paolo et Vittorio Taviani qui était sorti en 2012, dans lequel le spectateur découvre la mise en scène du César de Shakespeare par les détenus d'un quartier de haute sécurité de la prison de Rebibbia à Rome.
Da quando ho conosciuto l'arte, sacerdote è andata in prigione.
La presenteremo sulle tavole del nostro palcoscenico un'opera di Shakespeare, il Giulio Cesare.
Guantanamo Bonetti, nato il 16-9-71.
Quanti secoli a venire vedranno rappresentata da attori questa nostra grandiosa scena. I regni non ancora nati e linguaggi non ancora inventati.
E quante volte Cesare dovrà sanguinare su scene di teatri, come anche qui, oggi. In questo nostro carcere.
È brutto, siamo amici. Sono un uomo d'onore.
Extrait de César doit mourir. Ours d'or d'ailleurs au Festival de Berlin en 2012. C'est dans un décor carcéral que les détenus jouent cette pièce de théâtre. C'est à l'occasion d'une représentation dans le théâtre de la Centrale que nous avons découvert le travail de ces détenus et de leur metteur en scène, Fabio Cavalli, expliquait Paolo Taviani au moment de la sortie du film. On va retrouver justement Fabio Cavalli, co-scénariste de César doit mourir, mais aussi et surtout metteur en scène dans ce pénitencier de Rebibbia. Il va nous expliquer son travail avec les prisonniers. Ils nous disent que le théâtre peut leur apporter son effet sur leur réinsertion. Il est au micro de Tiffaine de Rocchini.
En Italie, les personnes analphabètes qui ne savent ni lire ni écrire et dont l'italien est la langue maternelle représentent 15 à 20% des détenus. Puis il y a les détenus étrangers qui ne connaissent pas notre langue. Et il n'y a que 0,5% de diplômés. Les statistiques nous disent que les personnes qui finissent en prison sont celles qui n'ont pas les ressources économiques, culturelles, intellectuelles, sociales et familiales qui les maintiennent éloignées du crime. Donc, entre quelqu'un comme moi qui fait du théâtre et de la culture en prison, et les acteurs, les détenus acteurs, la distance culturelle est énorme. Mais le langage du théâtre, le langage de la parole, du corps, de la respiration, du chant, est un langage universel qui rend très semblable ceux qui abordent le théâtre. Moi, j'apporte ma formation culturelle, et eux, ils apportent leur capacité à représenter la vie, à comprendre, pour les avoir vécus, les grands drames, les espoirs, les peines et les problèmes que la dramaturgie de toutes les époques a proposés au public. Et donc, même s'ils ne connaissent pas Shakespeare, s'ils ne savent pas lire en anglais, s'ils ne savent pas traduire, ils comprennent très bien la signification des œuvres shakespeariennes. Par exemple, quand on parle comme dans La Tempête, de folie, de pardon, de liberté, quand on parle comme dans Hamlet, de vengeance, de trahison, de justice, quand on parle comme dans Jules César, de conspiration, de liberté, de la République, de rapport entre liberté de la personne et liberté du peuple.
Sur les 500 anciens acteurs détenus de la prison de Rebibia, seuls 15 ont récidivé. Comment expliquez-vous ce qui apparaît comme une vraie réussite en termes de réinsertion ?
Les personnes qui choisissent de faire du théâtre, et je dois préciser que ce n'est bien sûr pas le cas de tous les détenus, mais ceux qui choisissent de faire du théâtre auront nettement moins de chances de récidiver que les autres. Nous n'avons, sur 500 personnes, pas plus de 15 d'entre elles qui sont retournées en prison. En Italie, on estime que seuls 6% de ceux qui font du théâtre récidivent, alors qu'autrement, on atteint 70% de récidive. Ce phénomène n'a pas encore été documenté. Il y a quelques études, j'en encourage certaines au niveau européen, parce que les expériences de théâtre en prison en Europe sont nombreuses, mais elles ne sont pas coordonnées. Il n'y a pas de tentative commune, ni de la part des ministères, ni des départements pénitentiaires, ni des prisons. Il n'y a même pas de registre des opérateurs culturels qui font ce type de travail. Or, je crois qu'il est très important de trouver des paramètres communs d'évaluation du travail. On cherche à proposer le théâtre et le spectacle comme une forme de thérapie universelle, comme à l'époque d'Aristote qui parlait de deux types de catharsis, la catharsis psychologique et la catharsis esthétique. Aujourd'hui, dans les prisons italiennes et européennes, on sait que le phénomène de la catharsis psychologique et esthétique se produit.
Mais alors justement, qu'est-ce que le théâtre produit et permet pour que les anciens détenus parviennent à s'engager dans une nouvelle voie et à quitter véritablement le milieu de la délinquance et du crime organisé ?
Qui fait attività teatrale nell'ambiente de privato ?
Que se passe-t-il vraiment dans l'esprit des personnes qui pratiquent une activité théâtrale dans un environnement appauvri du point de vue sensoriel et culturel qu'est la prison ? Cette étude, je l'amène depuis à peine 4 ans et je n'ai pas encore réussi à trouver des collègues, que ce soit à l'université, au théâtre ou des metteurs en scène, qui veuillent vraiment aborder tous ensemble cette question. Mais je crois que l'intérêt pour le sujet grandit. En Italie, il y a plus de 100 prisons qui ont une activité théâtrale. En Europe, elles sont plusieurs centaines. Il s'agit donc d'un phénomène vaste, étendu, et il est probable qu'au cours des prochains mois ou années, on commence vraiment à étudier, du point de vue de la théorie de la connaissance, du point de vue des neurosciences, comment se produit le mécanisme à travers lequel le théâtre libère l'esprit de la douleur, du mal et l'ouvre à la beauté.
Est-ce que cette expérience italienne a des équivalents en France et qu'est-ce qui, au fond, a rendu possible ce projet dans la prison romaine de Rebibia ?
La prison française, d'après ce que me disent mes collègues ou les personnes avec lesquelles je travaille, est très différente de la prison italienne. Elle est beaucoup plus fermée, beaucoup plus punitive. Et les expériences de théâtre en prison en France sont rares et très difficiles à entreprendre, car entrer dans les prisons françaises est tout simplement très difficile. Alors qu'entrer dans nos prisons en tant que spectateur est très facile. Au théâtre de Rebibia, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu 45 000 spectateurs. 65% sont des jeunes entre 14 et 18 ans qui viennent régulièrement voir les spectacles que nous donnons. Nous avons une affiche, un festival et la ville de Rome peut entrer. Il en va de même à Milan et dans d'autres prisons italiennes. En fait, l'Italie, de ce point de vue, est un exemple de la façon dont on peut réaliser des projets sans avoir aucun incident, aucun danger. Nous, en 13 ans, nous n'avons pas eu un seul incident en travaillant à la prison de Rebibia.
Voilà, Fabio Cavalli, metteur en scène dans ce pénitencier de Rebibia à Rome, au micro de Tiphaine de Rocchini. Réaction, Paul-Roger Gontard, on voit qu'on parlait de réinsertion, bien sûr, juste avant. Elle peut aussi se penser dans cette dimension culturelle et, en l'occurrence, dans un contexte de prison fermée, pour le coup.
Bien sûr, et l'Avignonnais que je suis est forcément sensible à cette histoire, et je sais que le Festival d'Avignon œuvre aujourd'hui avec la prison du Pontet pour essayer de faire rentrer la culture dans le monde pénitentiaire. Mais ce que je retiens surtout de ce témoignage, c'est cette idée de peine utile, de prison utile dans le lequel l'individu va trouver un sens à ce qu'il fait et va pouvoir trouver les ressources qui vont, les ressources culturelles, les ressources éducatives, les ressources même sociales qui vont lui permettre de trouver une vie exempte de crimes ou de nouveaux délits. Et là, on a beaucoup parlé d'Europe, parlons même au-delà de l'Europe, de par le monde, ces prisons ouvertes, ces modèles de prisons ouvertes permettent de donner ce sens-là. Je pense à une prison japonaise, une petite prison japonaise qui est un chantier naval qui a été créé par un ancien détenu, lui aussi, qui était dans la prison soviétique et qui voulait trouver un sens à donner aux condamnés et créer un bateau, peut-être un formidable défi pour un groupe d'individus. Ce sont des prisons américaines qui aujourd'hui font de l'élevage de chevaux sauvages, de mustangs, qui trouvent là un rapport original pour des individus qui sont forcément éloignés d'une forme de normalité puisqu'ils sont arrivés en prison et qui, dans leur dimension sauvage, vont être apprivoisés par leur propre travail aux côtés des chevaux.
Même s'il n'y a pas beaucoup de prisons ouvertes aux États-Unis.
Il n'y en a pas
même,
beaucoup.
C'est quand même le pays des supermax, le pays où en à peine 3 décennies, on a fait exploser la population carcérale de 800%.
Tout à fait, mais il faut quand même noter quand elles existent les bons exemples. J'en finirai par un dernier qui est une prison philippine qui s'appelle Iwaig, qui est la plus grande prison ouverte sans doute au monde. Elle fait 26 000 hectares, c'est-à-dire 2,5 fois Paris. Et cette prison accueille les familles des détenus. Ce qui signifie, ils l'ont bien compris, que l'accompagnement de l'individu, sa famille, ses enfants, peut aussi être un facteur de lutte contre la récidive et d'accompagnement vers la réinsertion. Un criminologue anglais, Sir Alex Patterson, disait « On ne peut pas entraîner un homme à la liberté dans des conditions de captivité. » Je crois vraiment qu'il faut aujourd'hui trouver les conditions qui permettent à un homme de s'entraîner à la liberté. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand.
Avec quelque part, Johnny Cash, lui aussi, en faisant ce concert devant des détenus, entraîne ses prisonniers à la liberté, justement.
Absolument.
Merci beaucoup, Paul-Roger Gontard, d'avoir été notre invité ce matin.
Merci.
Je rappelle,
à vous.
Donc, juriste, docteur en droit pénal et en sciences criminelles. Un grand merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. On poursuivra évidemment nos pérégrinations autour de ces prisons du monde demain. Pour l'heure, sur France Culture, dans un instant, c'est La Grande Table avec Caroline Brouet. Mais juste avant de la retrouver, c'est La Vie Moderne, comme chaque jour. Excellente journée et à demain.